Le goût du monde. Clémence de Navy.
Bonjour, bienvenue dans Le goût du monde. Je vous le dis, c'est une émission savoureuse que nous allons mitonner aujourd'hui avec un ami, cuisinier, un conteur, un homme à la voix tonitruante et à la cuisine totalement fondante. Bonjour Alexandre Belaola.
Bonjour Clémence.
Alors il faut que je vous dise que Alexandre Belaola, pour moi, c'est très simple, c'est un mafé. Parce que je garde un souvenir ému du premier mafé goûté chez vous. J'avais l'estomac dans les talons, c'était l'après-midi, l'hiver, la nuit était déjà tombée. Et ce mafé-là, sa sauce arachide, souple, enveloppante, avec son riz. Ah mais ce goût-là, mais jamais je ne l'oublierai, hein. La tiaquée non plus d'ailleurs. Et puis après, j'ai aussi goûté la tatine de mangue. Et puis j'ai vu encore d'autres desserts. Puis en fait, je suis partie parce que sinon j'allais tout manger. Voilà. Pour vous, vous êtes mon mafé à moi, Alexandre.
Bienvenue dans le club des mangeurs de mafé. Parce que l'arachide, c'est addictif.
Totalement addictif. Vous êtes cuisinier, donc, on l'aura compris. Comédien, ça, on va le découvrir au fil de l'émission également. Vous êtes chef de deux restaurants. Un à Montreuil, qui s'appelle Rio dos Camarões. Oui. Et Moussa l'Africain, dans le quartier des Halles, à Paris. On est vraiment dans le centre de la capitale. Votre dernier livre, lui, s'appelle Mafé Yassa Gombo, la cuisine d'Alexandre. Il est publié chez First. Et dès le début de ce livre, vous nous dites que ça fait déjà 30 ans que vous êtes en cuisine. 30
oui.
ans.
Ah oui.
Toute une vie. Il s'en passe des choses.
Ça ne rajeunit pas.
Et comment est-ce qu'elle s'est invitée dans votre vie, la cuisine?
Ben, je pense que nous tous, nous avons la cuisine dans notre vie. Parce que quand on arrive, la première chose qu'on a envie de faire, que chaque être humain a envie de faire, c'est de manger. Donc de chercher comment, où est-ce qu'on peut aller trouver la nourriture. Parce qu'un enfant, il repère très vite où se trouve le sein de sa mère. Donc le premier geste, c'est de chercher à trouver où se trouve qui va nous nourrir toute la vie. Et dès qu'on sort du sein, on commence à chercher des endroits où il y a à manger. Donc moi, j'ai eu cette chance que celui qui m'a conduit dans la cuisine vraiment, c'est mon père.
Voilà, c'est ça.
Parce que mon père faisait des desserts. Et le sucrer avec les enfants, je vous dis pas.
Ça marche très fort.
Ah, très fort.
Très, très fort. D'ailleurs, dès l'introduction en fait, de votre livre, parce qu'il y a une dédicace, ce livre, vous le dédiez à vos grands-mères qui vous ont initié aux saveurs de leur cuisine et de leur environnement. Vous avez été aussi attiré dans la cuisine par votre père et les saveurs culinaires de votre père. Votre mère qui vous a forcé à rester en cuisine. Sage femme. Puis, vous avez séduit bien sûr votre femme avec votre cuisine. Et évidemment, votre femme vous a contraint à rester toute votre vie dans cette cuisine pour être sûre qu'elle pourrait bien manger toute sa vie. Ça, c'est une histoire pas tellement commune en définitive d'avoir le goût de la cuisine via son père, non?
Ben non, mais c'est pas commun pour l'Afrique, effectivement, parce que le rapport à la cuisine en Afrique est quelque chose qui mute avec des générations. Donc, mon père a été initié à la cuisine par son patron blanc, qui, pendant la période de la colonisation, l'avait formé pour qu'il cuisine à son goût. Donc, mon père faisait la cuisine pour son patron et il était tellement habitué à faire ces choses que lui, quand il rentrait chez lui, il essayait de les reproduire chez lui. Puisque même dans ma famille, on appelait mon père le blanc. Et une petite anecdote que je vais vous dire, c'est qu'à la mort de mon père, le repas funéraire, c'était de la salade. Et il y a une de mes tantes qui me disait, celui-là, même mort, il va continuer à nous emmerder parce qu'il nous fait manger des herbes alors que nous, on n'a pas envie de manger des herbes.
J'ai même pas dit que vous étiez camerounais.
Ah, je suis africain.
Vous êtes africain, voilà, c'est ça.
Je suis africain et particulièrement, je viens du Cameroun. C'est-à-dire, s'il faut situer un endroit, c'est-à-dire, je viens de l'Afrique centrale. Parce que dans mon esprit, l'Afrique, c'est un ensemble qui a été divisé pendant, pour un certain nombre de choses, sur l'histoire, on ne va pas revenir dessus, c'est comme ça la vie. Mais ma vision pour l'Afrique, elle est complètement globale.
Vous êtes du centre de l'Afrique, cependant.
Oui, je suis du centre de
l'Afrique. Avec aussi, du coup, quoique le Cameroun a cette particularité d'avoir du désert au nord, on va avoir des lacs, des rivières, des montagnes.
Mais c'est l'Afrique en miniature, le Cameroun.
Oh, mais ça, vous dites que c'est les chauvins qui
disent
ça.
Mais non, sans chauvinisme. Vous vous rendez compte, dans ce seul petit pays, il y a 230 ethnies. Et 230 ethnies, ça voudrait dire que c'est 230 façons de regarder et de voir comment on peut cuisiner différemment. Ça, c'est la force du Cameroun. C'est-à-dire, le Cameroun a cette chance. Moi, je pense que la situation géographique du Cameroun est la plus intéressante de tout le continent.
On est d'accord que, en tout cas, ici en France, on ne connaît pas très très bien la cuisine africaine.
Oui.
On en a une idée déjà, on parle d'Afrique en général, on ne sait pas très bien situer quel pays est où, si on est au nord, au sud, alors que parfois on pourrait comparer aussi des cuisines aussi différentes que celles de l'Italie et de l'Allemagne, qui
oui.
sont proches mais n'ont rien à voir.
Oui, oui, mais au Cameroun, c'est difficile, c'est-à-dire c'est la langue qui fait la différence entre deux productions. Moi, j'ai envie de dire, partout, on a presque le même produit de base. Et ce qui fait un peu la différence, c'est la zone géographique. C'est-à-dire, dès qu'on sort du Sahara, on est un peu dans une zone sahélienne où on a tendance plus à retrouver des céréales. Et quand on rentre dans la forêt, on tombe pratiquement sur tout ce qui est tubercule. Et effectivement, ces deux différences font en sorte qu'on a vraiment le produit d'accompagnement qui est complètement différent. Mais maintenant, tout ce qui peut venir agrémenter cette cuisine, les arachides et autres, on les retrouve de part et d'autre, en fonction de la saisonnalité.
On va retrouver en fait des ingrédients comme ça qui vont être un petit peu symptomatiques de ces cuisines, mais qui vont être évidemment cuisinés différemment selon où on se trouve.
Oui.
J'ai été très marquée en lisant votre livre, Alexandre Belaola, par un chiffre. 99% des ingrédients, des produits utilisés dans la cuisine en Afrique sont des produits bruts, qui n'ont pas été transformés, pas été touchés, pas été raffinés, des produits bruts.
Oui. La cuisine africaine et d'Afrique subsaharienne reste encore parmi les cuisines où, effectivement, il n'y a pas eu cette transformation industrielle ou cette manufacturation qui fait en sorte que, effectivement, on perd la vision traditionnelle des produits pour les retrouver parce qu'il y a une forte consommation. Donc, le continent africain, j'ai envie de dire, tout est encore à faire, tout est encore à structurer.
Mais avant-gardiste en même temps, puisqu'aujourd'hui, dans les pays du Nord, on n'a de cesse que d'essayer de retrouver justement le goût de ce produit brut, local, davantage, d'avoir une alimentation de fait plus saine et bonne.
Mais tout le monde veut revenir
mais
à cela.
Mais c'est l'Afrique qui nous montre le chemin.
Mais bien sûr mais tout le monde veut revenir à la base, c'est-à-dire retrouver des choses simples à faire, c'est-à-dire le macabo, le manioc, bon, tout le monde a essayé. J'ai une amie qui avait essayé de faire des bananes plantain surgelées. Elle a fait une tentative qui n'a pas marché parce que effectivement, dire à un Africain, ces bananes sont surgelées comme des fruits, il va vous regarder d'un air bizarre et vous dire non, lui, il a encore envie d'éplucher sa banane. Bon, maintenant, c'est vrai que les contraintes de vie en milieu rural et en milieu urbain ne cesse d'évoluer. La femme africaine, de plus en plus, n'a plus le temps qu'elle avait il y a à peu près une trentaine d'années. Donc, il y a des petites organisations qui essayent d'apporter une aide culinaire pour gagner du temps aux femmes africaines. Bon, je ne sais pas, mais les gens ont vraiment du mal à s'en détacher.
Au-delà de la culture, en fait, c'est un plaisir peut-être aussi de prendre son temps. Il y a beaucoup d'ingrédients ou de sauces faites à base de feuilles, de plats, le saka-saka par exemple, ou encore le ndolé. Ce que je vous propose, puisque vous venez d'en parler, de cette ouverture, justement, avec la vie urbaine aujourd'hui, on n'a pas forcément le temps, mais on a les ustensiles parfois pour tricher avec la préparation. Et c'est Leonora Miano, dans son livre « Soul Food Équatorial », qui parle donc de cette préparation de ndolé.
Lorsqu'un homme est épris de vous et qu'il commence à envisager de passer ses jours à vos côtés, il vous demande un ndolé. Rien ne permet d'affirmer que ce soit en raison de la proximité du nom de ce plat avec le mot « ndolo », qui signifie « amour ». Ce qui est certain, c'est que, sans s'en apercevoir, l'individu prend un risque considérable. En effet, la couleur et la texture d'une ndolé sont telles qu'on peut y dissimuler n'importe quel poison sans que cela se remarque. Il se murmure à Douala et dans les environs une quantité infinie d'histoires d'envoûtement par le ndolé. Généralement, on ne le mange que chez des personnes de confiance, enfin, à l'origine, parce que le ndolé est devenu l'emblème gastronomique du pays tout entier. Il est servi dans tous les restaurants camerounais, ceux qui se respectent comme ceux qui font simplement illusion. L'homme ne veut pas seulement du ndolé, il veut que le plat soit préparé à l'ancienne, comme le faisait sa grand-mère, sur le foyer de sa cuisine, au mur en tôle, à côté de l'habitation principale. Or, cela ne se peut. On ne va pas se faire manucurer pour, la minute d'après, se métamorphoser en mama africaine des âges féroces. Notre conseil est d'avoir chez soi une pierre à écraser, de toujours la laisser bien en évidence dans la cuisine et de trouver une cachette sûre pour le mixer.
Tsundolé, donc lu par Nathalie Laporte, texte de Leonora Miano dans Soul Food Équatorial. Est-ce que votre mère, par exemple, comment est-ce qu'elle réagirait en voyant ce dolé qu'on peut déjà acheter, préparer et hacher et laver?
Ah, alors, moi, je peux vous dire que quand je partais du Cameroun, le ndolé n'était pas une plante potagère. C'est-à-dire, c'était un petit arbuste sauvage qui servait quelquefois à faire des clôtures. On ne plantait pas le ndolé. Et je repars, je pense, 10 ans après, il y avait déjà des champs de ndolé. Vous voyez que ça a évolué très vite, malgré le fait que c'était un plat que le Cameroun tout entier commençait déjà à adopter. Et parce que dans la région du sud du Cameroun, c'est presque un médicament. Les Boulous appellent le ndolé yolo-yolo. Cela veut dire amer-amer. Et j'ai un oncle qui avait été nommé directeur d'une école dans le sud du Cameroun et ma tante, dont sa femme, savait préparer le ndolé. Elle avait demandé à son employé de maison, parce qu'ils avaient aperçu un bosquet où il y avait plein de ses feuilles, d'aller les récolter, de lui rapporter ses feuilles. Et ce gars avait ramené tout un paquet en traversant presque toute la ville. Tous les gens lui demandaient, mais où vas-tu avec cette quantité de feuilles amères? Et le gars disait, non, c'est la femme du directeur de l'école qui dit qu'elle va préparer le ndolé. Mais les gens étaient surpris. Et je vous dis qu'à la fin de la journée, presque toute la ville était venue pour voir comment est-ce qu'on pouvait manger ces feuilles de ndolé. Et ça a été une première transmission. Vous voyez comment les recettes circulent à l'intérieur d'un pays. C'est-à-dire des gens qui partent d'un endroit et qui arrivent à un autre et qui arrivent à démontrer à ces personnes comment on peut consommer ces feuilles.
Ça participe justement de l'ouverture de ces recettes. Alors je m'excuse parce que j'ai dit ndolé, alors que c'est ndolé, c'est ça?
Ah bah oui, ndolé. Ça marche parce que...
Parce que c'est un plat national et de toute façon, quand on dit ndolé, tout le monde sait de quoi il s'agit.
Bon, oui, ndolé, parce qu'on parlait tout à l'heure de ndolo, parce que le ndolo, c'est l'amour. Ndolo, l'amour, effectivement, en Douala. Mais ce sont les Douala qui sont un peu à l'origine, les côtiers, qui sont un peu à l'origine de l'expansion de ce plat dans presque tout le Cameroun. Et il y a mille et une façons de le préparer. Parce que moi, quand je me suis retrouvé au Bénin, où j'ai aussi trouvé le ndolé, eux, ils le mangent différemment. Parce que le ndolé au Bénin, ils appellent un manvivet. C'est qui veut dire amer aussi. Un manvivet. La manvivet, eux, ils ne le préparent pas avec des arachides. Ils ne blanchissent pas comme on le blanchit au Cameroun. Parce qu'en fait, au Cameroun, on blanchit la feuille plusieurs fois pour retirer l'amertume. Mais en Afrique de l'Ouest, c'est-à-dire au Bénin et au Togo, on l'appelle aloma. Et là-bas, ils le mangent. Ils ne blanchissent pas. Et quand je m'étais rendu dans ces deux pays et que je montrais aux gens comment on pouvait le nettoyer, mais c'était une révélation pour eux. Parce que manger le ndolé au Bénin et au Togo, c'est un parcours de combattant quand même.
D'accord. En tout cas, moi j'ai de la chance parce que présentement, j'ai les effluves de votre ndolé que vous m'avez apporté qui sont en train de caresser mes narines. Et je dois vous avouer que je pense que je vais me régaler et je vous remercie encore. Donc ce ndolé, vous avez parlé d'arachide. C'est ce qui va faire un petit peu la différence parce que c'est un sujet un peu sensible quand même. Il y a des plats comme ça qu'on identifie qui sont devenus, vous l'avez dit, rapidement des institutions nationales.
Oui.
Alors on va parler maintenant de deux plats dont vous dites que ce sont les plats peut-être les plus connus, les plus faciles à identifier, peut-être les plus faciles à faire, dont on n'a pas besoin de 1000 ingrédients dans son placard pour les faire, accompagnés par ce...
Je vous vois venir.
Ah ben bien sûr.
Donc oui, le bafé et le yassa, pour moi, sont des plats universels. C'est-à-dire, voilà, aujourd'hui, là, tous ceux qui sont dans les pays du Nord et qui nous écoutent dans des endroits qui ne sont pas sur le continent africain, je vous assure que vous êtes capable de faire un plat africain sans sortir de votre maison. Parce que le yassa, est-ce que vous avez des oignons? Si vous avez des oignons dans votre maison, c'est déjà un bon point. Avec 4 oignons, vous êtes capable de nourrir à peu près 5 personnes. Donc, c'est-à-dire un oignon moyen, vous le découpez. Et qu'est-ce qu'il vous faut d'autre? Il vous faut quoi? Des carottes pour apporter un peu de couleur, mais vous n'êtes pas obligé de mettre des carottes si vous n'en avez pas. Il vous faut quoi? Un peu de matière grasse pour transmettre un peu tout,
parce que ça
toutes les saveurs.
Un peu, ça se lie.
Oui, ça va se lier effectivement. Alors, parce que la matière grasse nous permet dès le départ d'avoir une bonne transmission des saveurs. Qu'est-ce que vous avez d'autre? Vous avez un peu de moutarde. Ah oui, la moutarde dans le yassa. Les gens vont se demander, mais c'est pas africain? Oui. C'est pas africain, simplement parce que le yassa est un plat urbain. C'est pas un plat issu de la tradition africaine. Le yassa du Sénégal, qui part de la Casamance, est en milieu urbain. Et ce sont des plats qui datent après la colonisation. Donc, il y a une rencontre entre toutes ces personnes qui ont permis à ce plat de se développer. Mais le nom est quand même un nom africain. C'est-à-dire, c'est un nom qui est un peu créolisé. C'est un mélange entre l'argot et la tradition sénégalaise. Ça, c'est l'originalité de l'Afrique. Parce que l'Afrique reste quand même un continent ouvert qui n'arrête pas de rebondir sur le plan culinaire. Ça, c'est le yassa. Donc, je vous ai dit, vous avez des oignons, vous avez un peu d'huile, vous avez de la moutarde. Vous allez mitonner tout cela. Et la recette originelle, maintenant, c'est avec le poulet. C'est-à-dire, le yassa, c'est d'abord un yassa poulet. Mais maintenant, vous pouvez le décliner avec tout ce que vous voulez.
Parce
que
il faut
aussi, oui, il y a ça bœuf, il y a ça poulet, il y a ça végétarien. La cuisine africaine, elle est d'abord végétarienne. Parce que manger un poulet, ce n'était pas donné à tout le monde. Donc, vous voyez que cette recette, puisqu'elle est urbaine, donc c'est une recette déjà presque de luxe, avec un peu de poulet, vous mélangez l'ensemble, vous le laissez mitonner tranquillement, vous ne forcez pas, il ne faut pas un feu vif, parce que si vous avez un feu vif, les oignons vont colorer tout de suite, il faut les travailler lentement pour qu'ils deviennent translucides. Vous pouvez maintenant rajouter, comme je vous ai dit, des carottes, des poivrons, des olives. Et certains vont vous dire, non, ça ne fait pas partie de la tradition. Moi, je vous dis non, c'est une cuisine créative, c'est une cuisine urbaine. Ça, c'est le yassa. Maintenant, allons-y sur le mafé, qui est le deuxième plat que vous pouvez faire rapidement chez vous.
Le mafé, il y a quand même cet ingrédient qui est la pâte d'arachide.
Oui.
Qu'on peut acheter maintenant dans des boîtes toutes faites. Mais si on n'en trouve pas, est-ce qu'on peut la faire soi-même?
Oui, on peut très bien faire soi-même sa pâte d'arachide. Vous achetez de la cacahuète salée, il ne faut pas qu'elle soit sucrée, ou la cacahuète qui n'est pas salée, vous la mixez avec un mixeur, en mettant un tout petit peu d'eau de temps en temps. Ne mettez pas trop d'eau, mais c'est tout simplement pour donner un coup de main à la machine pour qu'elle arrive à les mixer. Et après, vous avez votre pâte d'arachide. Maintenant, vous la réservez de côté. Et qu'est-ce qu'il vous faut? Il vous faut tout simplement une base aromatique. La base aromatique, c'est quoi? C'est de l'huile, de la tomate, faire une sauce tomate. Tout le monde sait faire une sauce tomate. Vous la faites à votre façon. Dès que vous rajoutez la pâte d'arachide dessus, vous avez un mafé.
Merci, Alexandre.
Le goût du monde. Clémence de Navi.
Marie-Jeanne n'est plus auprès de moi. Depuis déjà des mois, elle est partie de chez moi. Elle doute de moi. Elle se méfie de moi. Elle surveille mes pas la nuit. Elle ne dort pas. Elle me tourne le dos au lit et dit que je ronfle la nuit. Écoute, Marie-Jeanne, je ne ronfle pas la nuit. Ce sont les douces mélodies du fond de mes narines que je pousse sans sourdine pour bercer ton doux sommeil. Marie-Jeanne, Marie-Jeanne s'en va, me laissant ton émoi. Des amis me disent de laisser tomber Marie-Jeanne, que de la bonne marijuana vient rouler me conduire au Nirvana. Non, c'est non. Moi, je veux Marie-Jeanne, pas la marijuana. Je veux Marie-Jeanne, pas la marijuana. Un ami boy, voilà pour Marie-Jeanne. Ouais, il me barouse. Marie-Jeanne. Elle dit que j'ai le poil crépus. Mes amis me disent de laisser tomber Marie-Jeanne, que de la bonne marijuana.
si vous nous rejoignez, vous écoutez RFI, bien sûr, vous écoutez...
Dodie Elwood avec Marie-Jeanne.
Marie-Jeanne dans Le Goût du Monde, bien sûr. Nous sommes donc la tête, le nez dans les marmites pour pouvoir un petit peu raconter cette histoire de cuisine des Afriques. Cuisine africaine, cuisine universelle, cuisine délicieuse en tout cas, cuisine assez savante aussi. J'ai envie de dire, là on parlait juste avant d'écouter Marie-Jeanne, du mafé et du yassa. Et alors vous avez parlé d'un mixeur. Moi j'ai envie de vous parler d'ustensiles. De quoi ou de quels ustensiles a-t-on besoin quand on veut se lancer dans la cuisine, peut-être presque en général, puisque ces ustensiles, on va s'en servir, mais peut-être qu'il y a quelques ustensiles dont on aura spécifiquement besoin pour cuisiner africain.
Oui, moi, le premier ustensile que j'ai remarqué quand j'étais môme, quand je rentrais dans toutes les cuisines, c'était un pilon et un mortier qui existaient. C'est-à-dire que dans presque toutes les cuisines des femmes, partout où j'allais, le mortier, le pilon, était toujours mis en évidence dans chaque cuisine.
Le coq chante, le jour paraît, tout se réveille dans le village, pour que le bon repas soit prêt, tout le monde est bon.
Tout le monde debout et du courage,
oui,
pour aller piler avec son pilon et son mortier, oui. Alexandre Belaola.
Le jour se lève, toutes les femmes sont debout et le premier geste qu'elles font, elles commencent à préparer, à piler. Ça, c'est un peu une image très touristique de l'Afrique d'une certaine époque, mais qui n'est pas fausse de toute façon.
Qui n'est pas fausse, parce que la taille du pilon et la taille du mortier ont peut-être changé, mais on se sert toujours de ces deux ustensiles.
Mais on a toujours besoin, et ils se métamorphosent en fonction du lieu. En milieu rural, oui, on a le pilon, et en milieu urbain, qu'est-ce que les femmes commencent aussi à faire aujourd'hui? Elles commencent à avoir des mixeurs qui viennent d'Europe, qui remplacent le pilon, parce que moi, je pense que pour commencer la cuisine africaine et pour la faire, il vous faut soit un pilon, soit un mixeur. Parce qu'il faut écraser, il faut mixer. Bon, maintenant, on a des petits pilons qui nous viennent aussi d'Asie, parce que c'est complètement différent. Mixer, écraser, piler.
On n'aura même pas avec les petits d'Asie. Moi, j'en ai un comme celui-ci. Quand on voit la force qu'on peut mettre avec un pilon, un grand pilon, avec un manche important, un vrai bol, on a l'impression que cette force-là, elle peut être un peu différente par rapport aux petits, parce que ça nécessite de la force pour pouvoir casser les noix, écraser,
surtout, oui,
mélanger.
Le produit, oui, quel est le produit que vous mettez dedans? Mais je pense que écraser les arachides dans un petit pilon, c'est quand même une certaine aventure. Il faut être courageux pour le faire. Ça dépend de la quantité. Sauf si, comme dans des pays européens, certaines personnes sont capables de faire un mafé pour une seule personne. Ça n'existe pas en Afrique. Non. Quand on fait un mafé, on le fait à partir de 8 personnes, voire 10 personnes.
Ce qui me semble nettement plus raisonnable en définitive. Donc, on a son mixeur. Ça, c'est un bon investissement. Quoi qu'il en soit, pilon ou mixeur, ça, c'est vraiment la base de la base. Je reviens sur mon pilon et mon mortier. Le fait justement d'écraser, de piler, est-ce que ça apporte une saveur différente dans la texture?
Non, on transforme d'abord le produit. C'est-à-dire, quand on a des graines, on a peut-être envie de les avoir en pâte. Quand on a d'autres graines, on a envie de les avoir en poudre. Donc, pour arriver à cela, il faut un outil qui nous permet de passer d'un état d'un produit à un autre, que nous allons transformer par la suite. Pour avoir, par exemple, de la farine de manioc, on a séché le manioc. C'est des petites graines, c'est des petites boules. Et pour passer de ces petites boules à la farine, il faut les écraser. Alors, on peut les écraser soit avec le pilon, soit avec la pierre, soit on les passe, quand on ne peut pas, dans un mixeur. Et cette fois, il y a certains produits où on n'a pas besoin d'avoir un peu d'eau, un peu de liquide pour les transformer. Ouais. Donc ça change en fonction du produit qu'on a envie de transformer. Et ça, c'est donc justement la mutation de la cuisine africaine qui se fait soit en milieu rural, soit en milieu urbain, ou alors c'est la diaspora qui apporte un autre regard. Parce que pour moi, il y a ces trois regards. Le regard rural, le regard urbain et le regard de la diaspora qui maintenant veut retrouver un certain nombre de saveurs des pays de leurs origines. Et ça, ça change.
Mais du coup, est-ce qu'ils ont attaché aussi à une certaine tradition, à une certaine image, justement, vous disiez peut-être une image d'Épinal ou une image un peu dépassée par rapport à aujourd'hui, quand on rentre et quand on a envie de retrouver peut-être aussi ça?
Oui, mais je pense que ce n'est pas l'image, c'est le résultat. On recherchait un goût. Et bon, le goût n'est jamais le même. Il faut savoir que la cuisine s'adapte tout le temps dans son environnement socioculturel. Et les produits voyagent aussi. Et quand les produits voyagent, on n'est plus dans un circuit court, parce que quand un produit fait 6000 km, il y a une altération forcément qui se fait. Donc, on ne peut pas reprocher cela. Le goût n'est pas le même. Et c'est pour ça que je suis quelquefois surpris quand quelqu'un me dit « Oh non, j'étais en voyage au Mali, quand moi j'ai mangé le thon là-bas, c'était pas pareil. » Je lui dis « Monsieur, vous reprenez votre billet d'avion et vous irez le manger là-bas. » Parce que la cuisine, il faut l'écouter. Elle s'adapte. On ne peut pas retrouver la même chose dans des endroits différents, avec des cuisiniers complètement différents. Mmh. La cuisine de ma mère, je ne la retrouverai jamais ailleurs. Mmh. C'est une saveur qui est unique, mais chaque cuisine a sa singularité.
Je suis bien d'accord. Je vous ai vu venir avec votre manioc et votre différente transformation de manioc. Et moi, je suis sûre que vous vouliez nous parler du gari.
Oui.
Qu'est-ce que le gari?
Alors, d'abord, moi, j'ai envie de rester à la source. Parce que le manioc, c'est quelque chose de très important pour moi. Vous savez, je ne veux pas faire une sorte de cliché. Moi, j'ai envie de vous dire, le manioc, c'est presque ma Madeleine de Proust. Parce que moi, quand j'ai découvert le manioc, bah, c'est parce que mes parents ne mangeaient pas le manioc. Et c'est une analyse que je fais beaucoup plus tard. Parce que eux, en milieu urbain, ils avaient grandi dans le manioc, étant au village. Et quand ils sont en milieu urbain, effectivement, puisqu'ils vivaient en ville, ils ne voulaient plus manger le manioc parce que pour eux, c'était pas très noble. Donc, ils mangeaient des bananes plantains que nous, les enfants, nous n'aimions pas parce que c'était sec. Et les bananes plantains, quand elles ne sont pas mûres, parce que quand elles sont vertes, oui, j'ai envie de vous dire, c'est une corvée à manger. Et mes parents, eux, ils adoraient cela. Et voilà, comme on allait en vacances presque tout le temps, j'arrive et la première chose qui est prête quand ma grand-mère rentrait du champ, c'était le manioc. Alors, elle avait cuisiné un manioc parce que le manioc, il sort du champ, il est dans la marmite. Donc, ma grand-mère cuisine le manioc, elle me tend un bout de manioc. Le manioc est doux. Il a un certain sucre, parce que l'amidon qui est contenu dans le sucre, quand cela se mélange avec votre salive, ça crée un certain sucre qui est impressionnant. Vous vous rendez compte, pour un enfant, quand j'avais découvert le manioc, rien qu'à vous parler, je vous avoue, j'ai de l'eau à la bouche. Parce que il était tout succulent, mais je n'en revenais pas, je ne comprenais pas pourquoi mes parents ne mangeaient pas le manioc. Moi, pour ce môme que j'étais, le manioc était quelque chose d'exceptionnel. Et j'adore le manioc. Alors, maintenant, vous m'aviez dit, le manioc, il permet 1001 transformations. C'est un produit qui génère des produits complètement différents et que vous ne pouvez même pas imaginer.
Intégralement utilisé en plus.
Ben, tout est bon dans le manioc. De la racine jusqu'aux feuilles, tout est bon dans le manioc. Et même la tige, on peut même l'utiliser quelquefois pour faire du feu. Parce qu'on ne perd rien, rien que la tubercule. On fait un produit qu'on appelle la transformation du manioc parce qu'on le fait fermenter. Le process est plus ou moins le même. On le fait fermenter et on peut obtenir le gari. Le gari, c'est qu'on a fait fermenter le manioc. On l'a essoré. Donc, il a perdu un certain nombre de nutriments. Et il faut savoir qu'il est très rassasiant pour toute les femmes qui veulent faire du régime, je vous avoue, un petit bout de manioc chaque matin, vous prenez 3 ou 4 bouts de manioc, vous avez le ventre presque plein pour toute la journée. Donc, vous n'avez pas envie de manger autre chose. Alors, pour faire le gari, donc, on trempe le manioc, on retire, on l'écrase, on le fait sécher. Ça, c'est une recette un peu rapide que je vous donne. Ça, on retrouve le gari. Alors, les Togolais et le gari, c'est qu'une histoire. Attendez, ne vous amusez pas avec le gari chez un Togolais. Parce qu'à chaque table d'un vrai Togolais, il y a toujours du gari. C'est-à-dire, et il le saupoudre un peu partout. Donc, c'est comme des grains, c'est comme,
comme
de la semoule.
Comme une chapelure, en fait.
Ah oui, c'est comme une chapelure, exactement. Non, mais un Togolais qui vous invite et qu'il n'y a pas de garé sur sa table,
c'est un
qui n'est pas un vrai Togolais.
Ou un Béninois aussi, parce que les Béninois aussi sont assez amateurs de
Oui,
de
mais c'est des cousins, ils sont côte à côte. Entre le Togo et le Bénin, moi, je ne vois pas la différence jusqu'au Ghana. Hein, ouais. Et même au Nigeria, ce sont des gens qui mangent pratiquement les mêmes choses.
Vous dites une cuisson à l'eau. Et vous précisez à plusieurs reprises dans votre livre justement que les patates douces cuisson à l'eau, les bananes cuisson à l'eau. Cette cuisson à l'eau, c'est quoi? Pourquoi est-ce que vous précisez comme ça?
Alors, de façon générique, j'ai envie de vous dire, c'est une cuisson à l'anglaise.
Oui, mais sauf qu'on ne veut pas dire à l'anglaise.
C'est tout le monde, c'est des patates à l'eau. Hein. Donc nous, comme tout le monde, la cuisson de base d'un tubercule, ça commence d'abord par une cuisson à l'eau. Tout bêtement, vous l'épluchez, vous faites une cuisson à l'eau. Et ce qu'on appelle dans des écoles, quelqu'un va vous dire, oui, je vous ai fait des pommes de terre à l'anglaise. Vous allez chercher, mais c'est-à-dire quoi? Non, c'est tout simplement une cuisson
à l'eau. Tout simplement.
Tout simplement.
Tout bêtement.
Donc, et c'est pour ça que dans mon livre, j'ai dit du manioc au naturel.
Voilà, tout simplement. Une cuisson au naturel. On n'a pas tellement besoin de plus. Vous dites aussi, vous parlez alors de quelque chose qui m'a intrigué, moi. Les marmites à fond épais.
Oh là!
Important. La marmite, c'est fondamental.
La marmite, attends.
On est d'accord, grosse marmite. Ouais. Je vous pose la question parce que je me suis posé la question. Et je cuisine, évidemment. J'ai une famille, donc je cuisine aussi. Mais qu'est-ce qu'une marmite à fond épais?
Ce ne sont pas des gamelles où, du côté jusqu'au bas, on a la même épaisseur. C'est-à-dire, les côtés peuvent être très fins, mais le fond doit être épais. Sans ça, la chaleur passe très vite et tout accroche rapidement. Or, quand le fond est épais, on permet tout simplement de capter la chaleur et de la diffuser et de la contenir. C'est-à-dire, cette chaleur ne traverse pas rapidement. Les marmites à fond épais sont très importantes pour une cuisine qui mijote. Si vous voulez faire mijoter les choses, effectivement, essayez d'avoir une cuisson que vous pouvez contrôler. Une chaleur, c'est-à-dire que quand vous arrêtez la chaleur tout de suite, elle ne disparaît pas, elle descend progressivement. Or, si c'est une lame de papier, dès que vous arrêtez tout de suite, tout s'arrête. Or, la cuisine est quelque chose qu'on travaille lentement, on prend le temps. Et toujours, on va travailler avec une intensité de chaleur très lente, ce qui est très important. Parce que la cuisine africaine, c'est une cuisine toujours à base de ragoût. On fait mitonner les choses et surtout, ces ragoûts, ils ne sont pas forcément meilleurs le jour même. Il faut encore les laisser travailler. C'est-à-dire l'oxydation avec l'air nous permet tout simplement le lendemain. Ah oui, une bonne recette avec des feuilles de manioc, quand vous la mangez le lendemain, attendez, il y a une mutation, il y a une oxydation qui a commencé, une certaine fermentation qui va nous apporter quelque chose de très important pour notre microbiote. Mais il y a tout dans la cuisine africaine.
Mais voilà, elle est révolutionnaire, vous écoutez, il y a tout. Il y a la fermentation, donc on va se sentir bien. Il y a peu de protéines en définitive. Vous nous l'avez dit tout à l'heure, c'est une cuisine à la base assez végétarienne. Il y a assez peu de viande, c'est arrivé plus tard. Il y a un ustensile aussi dont vous dites qu'il est très important d'avoir, c'est le couperet. Ou coupe-coupe.
Oui, oui.
Mais qu'est-ce que ça nous apporte?
Alors ça, je pense que ça, c'est l'urbanité. C'est-à-dire couper les viandes, couper des choses grosses. Parce que la cuisine africaine, elle est généreuse à la base. Donc, maintenant, s'il s'agit de faire un mouton, ou s'il s'agit de faire, il faut avoir de quoi un couperet pour essayer de couper ses os. S'il faut travailler le poulet, il faut avoir un gros couteau pour faire des fricassés. Et donc, si vous avez tout simplement des petits outils, dans la cuisine africaine, il faut avoir un couperet ou un coupe-coupe pour essayer d'avoir des choses qui sont convenables pour entrer dans une assiette, finalement. Mais sinon, en Afrique, quand on n'a pas, oui, on va vous donner une cuisse entière, hein, une grosse cuisse entre les mains. Mais moi, si on sert ici, en Europe, une cuisse de poulet entier, quand on la donne à un gamin, tout de suite, le gamin, il a peur. Il est impressionné. Tandis qu'un petit Africain, vous lui donnez une cuisse de poulet, allez, il vous l'attrape avec les deux mains, et yep, il y va avec ses dents dedans.
Ouais, mais ça, cette cuisine des os, cette cuisine des arêtes, des poissons aussi, elle apporte du goût. Et c'est ça qui est savoureux aussi.
Ici, on est habitué avec des filets, des pavés de viande. Tandis qu'en Afrique, il y a toujours un os qui se balade là-dedans, qui apporte une certaine onctuosité, vous voyez. Mais la cuisine africaine n'est pas encore dans la découpe. Et je souhaite qu'elle n'arrive pas dans la découpe. C'est la particularité. Je pense que, oui, la cuisine urbaine, parce que aujourd'hui, quand on vous sert, par exemple, j'avais travaillé pour quelqu'un pour un food truck, je lui avais dit, écoutez, quand tu vas faire ta cuisine africaine dans un food truck, dans une boîte, il faut que la personne qui va manger ta boîte que tu proposes ne puisse pas toucher un élément avec sa main. Et que tout ce qu'il y a dans la boîte soit mangeable, que quand il jette, elle est complètement vide. Donc, et c'est l'évolution de la cuisine africaine. Parce que quand moi je fais un yassa dans un food truck, je travaille avec quoi? Je veux me rapprocher de la cuisine africaine, qu'est-ce que j'ai choisi? Je choisis quand même un morceau qui est, par exemple, le suprême de volaille, où je retrouve encore la peau. Je ne reprends pas le blanc de poulet, parce que le blanc de poulet, on n'a plus la peau. Tandis qu'un suprême de volaille, oui, on est encore proche de la surface de la volaille, et il peut y avoir un mélange qui est très intéressant.
Oui, suprême de volaille, attiéké, par exemple, je vois bien quelques petits beignets aussi de niébé, ou enfin, vous voyez quoi.
Ouais.
Le goût du monde, Clémence de Navi.
De là sur RFI, vous écoutez Le Goût du Monde. Nous sommes avec
Alexandre Bellaoula, qui vous vient tout droit du Cameroun et de Montreuil.
Et de Montreuil, et de Paris. Léa, c'est Moussa l'Africain, ouais. Un restaurant afropéen. Nous sommes donc le nez dans nos marmites, toujours. Je suis en train juste de passer au grill, Alexandre Bellaoula, pour connaître tous ses secrets pour bien faire revenir la viande, bien préparer les garis, même faire des gratins d'igname, j'ai vu dans votre livre. Ça, c'est une ouverture de la cuisine africaine au monde. Est-ce qu'il y a justement des allers-retours entre ce qui se fait traditionnellement, l'ouverture aujourd'hui vers d'autres pays, le panafricanisme? Est-ce que ça bouge?
Mais c'est tout simplement que ceux qui voient des choses essayent de les adapter en fonction. C'est-à-dire, la cuisine, comme je le disais tout à l'heure, s'adapte dans son environnement socio-culturel. C'est comme un caméléon. Quand il arrive quelque part, il prend la couleur de son environnement.
C'est comme un gombo.
Oui, tout à fait. Et là, l'igname, la pomme de terre. Bon, je n'ai rien inventé, hein. Là, dans l'autre livre, j'ai aussi un confit de canard à l'huile de palme.
Absolument. L'huile de palme, d'ailleurs, dont vous parlez aussi. Votre livre, il est très riche, puisqu'on a les explications, les récits de votre enfance aussi, des souvenirs, et puis des explications très pragmatiques aussi. Vous racontez que cette huile de palme, qui est la championne des discussions et des contestations, à l'origine, vous avez vu votre mère aller chercher l'huile de palme auprès toujours de la même personne qui lui vendait, de manière artisanale, et le problème a été l'industrialisation.
Oui. Mais l'huile de palme a un terroir. comme toutes les huiles au monde. Bon, c'est vrai qu'aujourd'hui, c'est la palme d'or de la controverse. C'est-à-dire, on raconte tout et n'importe quoi parce qu'il y a des lobbies derrière. Bon, on ne va pas s'égarer dans cette bataille. Moi, je vous dis que aucune huile, déjà, dans un premier temps, aucune huile, si vous exagérez, ne va vous laisser la vie saine. Toutes les huiles sont dangereuses si vous exagérez. Donc, il faut savoir manger. Et puis, quand vous êtes gourmand, je vous conseille de bouger un tout petit peu. C'est-à-dire, de vous lever. Le sport commence à partir du moment où on se lève de son lit le matin. Ne vous dites pas que est sportif celui qui va courir. Non, levez-vous, sortez de votre lit. Vous avez déjà fait une activité sportive dont vous pouvez vous permettre de manger un tout petit peu parce que vous dépensez. Donc, l'huile de palme, effectivement, est quelque chose de très important dans l'alimentation africaine parce qu'elle apporte un parfum.
Un goût.
Un goût. Quand vous la mettez en fin de cuisson, quand vous faites, par exemple, quelque chose qu'on appelle le folon, la marante, la cuisson de la marante, qui est une variété d'épinards, que vous sautez légèrement. Vous pouvez la sauter soit avec des crevettes, soit tout simplement avec une petite base aromatique. Et vous terminez votre cuisson avec un filet d'huile de palme. Vous allez avoir ce goût en bouche quand vous allez manger le folon, quand vous allez manger cette amarante. Et l'huile de palme va vous apporter des nutriments.
Maintenant, j'aimerais bien mettre un petit peu de piment. Parce que c'est un tort dont on dit, la cuisine africaine, elle pique, elle est forte, elle est trop piquante.
Non, bah, elle n'est pas trop piquante. Et le piment, c'est d'abord le goût de la personne qui cuisine. Une petite anecdote, quand j'allais en vacances, j'avais une tante qui nous faisait un plat, elle mettait du piment et elle nous obligeait à manger ce plat. C'était énorme. Et alors, une année après, je m'en vais chez mes oncles maternels, je découvre le même plat qu'une autre de mes tantes a préparé sans piment. C'est là que j'ai compris qu'effectivement, le piment, c'est le goût d'une personne. Et il s'avère qu'en Afrique, beaucoup de personnes aiment manger du piment.
Et donc, ce feu-là, on a la chance aussi et découvert qu'il y a un piment qui apporte le goût, qui apporte le fruit, mais qui n'a pas le feu.
Ah oui, le piment végétarien. Alors là aussi, c'est un piment que j'adore. Là, je fais par exemple des coulis au piment végétarien. Vous savez, je vous fais un sorbet d'ananas avec un coulis de piment végétarien. Alors, vous savez, dès que vous mettez en bouche, vous avez l'impression qu'il va vous attaquer. Vous reconnaissez le parfum du piment, mais monsieur est tout gentil, il passe tranquillement et il ne vous fait rien. Ça, c'est superbe, ça.
Ouais, c'est juste un peu de fruits dans la bouche. Et Vos grands-parents, est-ce qu'ils assaisonnaient? Est-ce qu'ils avaient des oignons dans leur cuisine? Est-ce que vous avez découvert une vraie différence entre la cuisine de vos grands-parents?
Oh bah non. La cuisine de ma grand-mère,
on touche pas.
Il n'y a pas d'oignon. L'oignon est une histoire urbaine. L'oignon, c'est quelque chose de magique. Parce que chez moi, j'étais en pleine cuisine au restaurant à Paris, le serveur vient me dire « Chef, il y a quelqu'un qui veut un plat sans oignon. » Je lui dis « C'est impossible qu'il puisse exister un plat sans oignon. » Je lui dis « Non, ça n'existe pas. Ici, dans la carte, il n'y a pas de plat sans oignon. » Mais quand le serveur s'en va, je me replonge dans ma mémoire, mais je me rends compte que oui, il y a des plats sans oignons. La plupart des plats traditionnels chez moi n'ont pas d'oignons. L'oignon, c'est plutôt quelque chose qui a de la puissance maléfique. Parce que si quelqu'un plante des oignons dans votre jardin, faites attention, il veut s'approprier votre maison.
On s'en souviendra. Ce sera bien gardé comme secret. J'ai envie juste de vous partager un dernier texte de Leonora Miano. Elle raconte l'histoire qui s'appelle Solo, qui est l'histoire d'un poisson. Et contrairement à d'habitude, eh bien cette fois, ce poisson devient l'objet de compétition entre deux hommes amoureux de la même femme qui s'appelle Florence. Donc ils lui préparent l'un et l'autre un poisson. Et voilà ce qu'il est dit au sujet de ce poisson et de la sauce qui l'accompagne.
Le solo, le poisson, avait une sorte de grâce à déployer sa chair fine sous un filet d'huile rougie par la tomate. Les oignons ayant fondu, les épices s'étant diluées, le poisson régnait comme il se devait sur le rivage, le reste ne venant que confirmer sa souveraineté. Hervé avait mis des pistaches écrasées dans sa sauce, ce qui l'alourdissait, la rendant aussi plus grasse. C'était la sauce d'un homme qui voulait vous river au sol, limiter vos mouvements. Son amour ne pouvait qu'être inquiet, et Florence ne voulait pas passer son temps à le rassurer. Il ne lui fut pas possible de dire immédiatement ce que Jules avait apporté à la préparation originale. Sans y avoir goûté, tout ce qu'on pouvait dire, c'était qu'il y avait un élément en plus. Mais cela restait mystérieux. Était-ce seulement un peu plus de tomates fraîches que l'usage n'en réclamait? Une larme d'huile de palme non blanchie? L'ingrédient mystérieux ne signalait sa présence que par un semblant de consistance supplémentaire conféré à la sauce.
Et on pourrait dire un petit supplément d'âme également. Je crois que c'est un peu la signature et le secret de la cuisine, des cuisines d'Afrique. En tout cas, j'ai l'impression, Alexandre Belaola.
Oui. Il y a toujours un petit soupçon de quelque chose, une petite trace, parce qu'il y a quand même de la finesse, il y a de la lenteur dans cette cuisine qu'on retrouve par-ci, par-là.
On n'aura pas eu le temps de parler de noix de coco, pas de noix de plantain. Je dois préciser cependant que vous êtes arrivé, Alexandre, aujourd'hui en studio et vous aurez la photo sur la page du Goût du Monde et sur les réseaux sociaux avec une bibliothèque de livres africains. Mais vous m'avez fait cette remarque. Ça bouge, ça bouge, ça bouge. Pourquoi cette bibliothèque et quelle a été son évolution, justement, Alexandre?
Alors, dans les années 80, dans le rayon livre de cuisine africaine, il n'y avait qu'un seul livre.
Le couscous.
Qui parlait de cuisine africaine. Et l'Afrique noire avait à peine une dizaine de recettes dedans. Moi, j'arrive dans la restauration vers les années 90 et je n'ai que pour référence ce seul livre qui a été édité pendant, je peux vous dire, une trentaine d'années. Rien que ces deux dernières années, il y a eu 4 nouveaux livres sur la cuisine africaine.
Publiés en France et en français.
Et avec des nouveaux chefs, la jeunesse qui arrive avec des visions complètement différentes. Si on a même un chef de type africain qui est étoilé. La cuisine qu'il fait, c'est une cuisine que lui-même s'est qualifiée. Mais ce qui est important, c'est que ses origines influencent sa cuisine, dont l'Afrique. Donc maintenant, tout ça est bon pour que la cuisine africaine essaye de monter. Et puis, j'ai d'autres personnes qui soutiennent la cuisine africaine. J'ai les grandes tables à Marseille qui travaillent sur la cuisine africaine.
À Calais aussi, dans l'Auvergne aussi.
Oui, avec Fabrice Lextray, qui est un militant acharné de la cuisine africaine, qui essaye de dynamiser toute cette population pour qu'on essaye de travailler sur la cuisine africaine. Donc moi, je suis heureux de savoir qu'il y a des livres et les jeunes n'arrêtent pas de porter leurs différents regards. Ce qui est très intéressant, c'est que chacun traite cette cuisine avec son regard, avec son parcours, avec ses origines.
Ça y est, l'Afrique est en train d'émerger.
Ah oui, 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 oui.
Merci beaucoup, Alexandre. Ma fille Yassa Gombo, la cuisine d'Alexandre est publiée donc chez First. Nous vous glisserons bien sûr des recettes, des plats de base dont on a parlé aujourd'hui. On va donner peut-être la recette du mafé. Du Yassa, vous l'avez donné, on la scriptera. Et vous, quelles sont vos recettes préférées? Fondez-vous pour le gari. Que pensez-vous de l'ouverture des cuisines? Racontez-nous sur les réseaux sociaux et sur le numéro WhatsApp de l'émission 33 6 43 16 15 66. Merci beaucoup à Nathalie Laporte qui a apporté sa voix aux lectures des textes de Leonora Miano, texte issu du livre Soul Food Équatorial publié aux éditions Nil dans la collection Exquis d'écrivains. Merci beaucoup à Cécile Bonissi qui a réalisé et mis en onde ce Goût du Monde. À vous tous, bien sûr, de votre fidélité. Rendez-vous la semaine prochaine, d'accord ?
Le coq